Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
La prédication portera sur l'expression la plus grande de l'amour de Dieu pour nous. Elle se basera sur une grande partie de la passion de Jésus-Christ, telle que son disciple Matthieu le Péager en rend témoignage. Nous allons donc lire une bonne partie du chapitre 26 et du chapitre 27 de cet évangile de Matthieu. Et comme c'est assez long, j'ai demandé du renfort, et c'est Joël qui va venir en renfort devant, et nous lirons en alternance ces versets dans Matthieu 26 et Matthieu 27, et nous vous indiquerons là où il se trouve. Parfois, on va sauter certains passages pour que ça ne soit pas trop long, qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel de ce que Marc va nous apporter tout à l'heure. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 26. Et nous commençons au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi ?» Et ceci se répète deux fois. Puis nous reprenons notre lecture au verset 47.
Verset 47. Comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arriva avec lui. Une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent.
Nous passons au verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soit présenté. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit : « Ne réponds-tu rien ? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit : « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent : « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant : « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé. » Ensuite vient le triple reniement de Pierre, dont Jésus, qui le lui a annoncé d'avance, est bien conscient, au milieu de la tourmente de son faux procès. Notre lecture se poursuit au chapitre 27, verset 1.
Le matin venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur.
Et pour terminer, nous lisons maintenant en alternance les versets 11 à 50 de ce chapitre 27. Matthieu 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit : « N'entends-tu pas tout ce dont ils t'accusent ? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule.
Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ? » Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Tous répondirent : « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit : « Mais quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fil, mais quand ils l'eurent goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche.
Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qu'il rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. »
Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ».
Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière.
Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani ». C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit.
Et merci à Marc de s'occuper de nous en nous prêchant la parole de Dieu. Merci de t'être préparé, Marc. T'accueillons ici avec joie.
Puisque j'ai la responsabilité de m'occuper de vous, j'espère que vous serez sages. J'en doute pas. Quelle était la thématique de la dernière prédication que j'avais amenée, si ça peut vous aider, le 16 novembre ? Et ça fait un petit moment quand même. Hein. C'était « La gloire de Dieu est excellente ». La prédication d'aujourd'hui suit la série que j'ai débutée le 16 novembre, qui s'appelait justement « La gloire de Dieu est excellente ». Cette série a en vue d'encourager les chrétiens qui peuvent parfois traverser des moments de doute, d'émerveiller à nouveau ceux qui ne traversent pas de moments de doute, et d'encourager ceux qui sont dans une démarche de réflexion à se jeter dans les bras de Christ. Lors de la dernière prédication, on avait découvert ou redécouvert une facette assez inattendue de la gloire de Dieu. Inattendue parce qu'elle ne correspond pas à la conception humaine qu'on peut avoir de la gloire. Pour nous, êtres humains déchus, et pourtant, cet aspect de la gloire de Dieu répond aux plus grands besoins que nous, on a en tant qu'êtres humains déchus. On avait commencé par se tenir, si vous vous rappelez, aux côtés de Moïse, lorsqu'il avait demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu avait fait passer devant lui sa bonté en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime et le péché. » C'était en Exode 34. C'était donc sa bonté, sa miséricorde, sa disposition au pardon et son amour qu'on avait découvert comme faisant partie de la gloire de Dieu. Puis on s'était tenu aux côtés d'Ézéchiel, qui avait reçu une révélation imagée de la gloire de Dieu, avec deux caractéristiques qui avaient retenu notre attention. La première, que la gloire de Dieu est quelque chose de lumineux, de généreux, d'englobant, qui se répand. On avait vu que les termes clarté, resplendissance, lumière sont régulièrement présents lorsqu'il est parlé de la gloire de Dieu. Elle illumine notre âme, se répand dans les ténèbres de ce monde et de notre cœur. Elle n'est ni cupide, ni ne prend, mais elle est généreuse, aimante et vient à notre rencontre, non pour extorquer, mais pour briller d'un amour bienveillant. La deuxième caractéristique, assez inattendue, qu'on avait découverte, était l'apparition d'une forme humaine dans cette révélation qu'avait reçue Ézéchiel de la gloire de Dieu. Cette forme humaine présente dans la gloire de Dieu nous avait conduit naturellement jusqu'à Jésus-Christ, qui est, comme le dit Hébreu, le reflet de la gloire de Dieu. Et on avait vu que dans la vie de Jésus, il y avait eu un point culminant, un moment particulier où sa gloire avait été manifestée d'une manière explicite, magistrale, époustouflante, inattendue. On va essayer de se rappeler. Peut-être quand il a ressuscité Lazare ? Ou alors le fils de la veuve? Alors peut-être lorsqu'il a nourri 5000 personnes? Ou alors lorsqu'il a marché sur l'eau et calmé la tempête? Peut-être quand il a guéri les 10 lépreux? Ou alors quand il a jeûné pendant 40 jours dans le désert? Quel moment c'était déjà? C'était le moment de la croix. Ça ne signifie pas que les autres éléments mentionnés ne révèlent pas aussi sa gloire, mais Jésus lui-même nomme ce moment spécifique comme le moment où il va être glorifié, où sa gloire va être révélée. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits et un peu plus loin, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. L'heure de sa mort à la croix, c'est dans l'évangile de Jean, si jamais au chapitre 12, est le moment où la gloire de Dieu est révélée d'une manière particulière en Christ. Et c'est sur ce dernier aspect, en fait, qu'on s'était arrêté. Alors si la croix représente l'endroit par excellence qui nous révèle la gloire de Dieu, est-ce qu'il ne vaudrait pas la peine de nous y arrêter plus longuement ? De méditer les événements de la croix et ce qu'on y apprend de la gloire de Dieu. Eh bien, c'est Dieu voulant ce qu'on va faire maintenant ensemble. Que le Seigneur nous accorde d'être profondément imprégnés et transformés par l'étude de sa gloire. Le premier point, la passion de Jésus. Comme nous l'ont lu Roland et Joël, on va commencer un peu avant la crucifixion, là où débute le narratif de la passion. Et on va revoir dans les grandes lignes. Donc dans le jardin de Gethsémané, après que Jésus ait partagé le dernier repas avec les disciples, le dernier repas de la Pâque avec ses disciples, juste avant son arrestation, c'est là qu'on reprend. Jésus était donc conscient, à ce moment-là, que le temps qui allait aboutir à sa crucifixion était arrivé. Et il fut saisi d'angoisse. Pas un peu angoissé. Marc, dans son évangile, va dire que Jésus commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Luc, le rédacteur de l'évangile qui porte son nom, nous rapporte même un phénomène médical. Luc était médecin, donc il nous ramène ce phénomène-là. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Ce phénomène est appelé hermatidrose. C'est provoqué par une angoisse ou un effort extrême. Les petits vaisseaux sanguins qui sont sous la peau se dilatent et éclatent, mêlant par là même le sang transporté à la sueur. Voilà l'intensité de l'angoisse ressentie par Jésus au commencement de cette nuit qui va l'amener jusqu'à la croix. Mais d'où vient cette angoisse ? Il le dit lui-même, de la coupe qu'il sait qu'il va devoir boire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe de si terrible pour que le Messie, le Fils de Dieu lui-même, vive une telle angoisse ? C'est ce qu'on verra par la suite. Pour l'instant, on va simplement encore continuer ce récit. Il va aller à l'écart et manifeste le désir d'avoir auprès de lui comme soutien trois de ses disciples les plus proches. Malheureusement, leurs yeux étant appesantis, ils vont s'endormir à chaque fois, privant Jésus de ce bienfait. Puis arrive une foule de soldats, romains et de gardes du temple, qui viennent le chercher munis de torches et d'armes. Et à leur tête, un ennemi ? Non, à leur tête marche un des douze, qui a partagé sa vie durant 3 ans, qui a fait partie du cercle plus proche et intime de Jésus. Et c'est par un baiser que cet ami le trahit, un baiser par lequel il le fait reconnaître des autres, tout en l'appelant encore « maître ». Alors qu'il est trahi par l'un des 12, voilà qu'il est encore abandonné par tous les autres. Même Pierre, qui avait affirmé qu'il irait jusqu'à la mort avec lui, l'abandonne. Saisi par cette foule venue en armes pour l'arrêter comme un malfaiteur, il est emmené chez le souverain sacrificateur où étaient réunis tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Il se trouve dans une salle entourée de personnes n'ayant qu'un but, trouver le moyen de le faire mourir. Débute alors un procès complètement injuste, une mascarade, un simulacre de procès qui en vérité n'a qu'un but, de le condamner. Quelle autorité, cherchant à agir avec justice, irait arrêter quelqu'un en pleine nuit pour le juger en cachette cette nuit même ? Et où sont les défenseurs auxquels tout accusé a droit ? Et le temps de se préparer, de préparer la défense ? Au lieu de ça, on produit de faux témoins pour pouvoir le condamner sur la base de mensonges. Mais ironie, même leurs mensonges se contredisent. Il n'est pas possible de condamner Jésus sur la base de leurs témoignages mensongers. En effet, il n'y a rien à lui reprocher. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont lui demander « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» C'est effectivement ce qu'il est. Alors Jésus va répondre honnêtement, par l'affirmative « Je le suis ». À quoi ils réagissent pour le condamner à mort et se mettent à le frapper à coups de poing, de gifles, et à se moquer de lui. Alors que Jésus vit ces événements, il se déroule une scène dehors qui nous est bien connue. Pierre, celui qui a dit qu'il suivrait Jésus jusqu'à la mort, est en train de le renier. Là, au milieu de la tourmente, de la douleur, de l'injustice, Jésus sait que Pierre est en train de le renier. C'est ce qu'on voit dans Luc au chapitre 22. Les chefs juifs pense donc avoir trouvé l'argument pour mettre à mort Jésus. Problème, sous le gouvernement romain, il n'avait pas l'autorité pour mettre à mort une personne. Il l'emmène donc devant Pilate, qui dans un premier temps va lui-même le renvoyer chez Hérode. Là, les sacrificateurs et les scribes le suivent et ils vont encore l'accuser avec véhémence. Hérode et ses gardes vont le traiter avec mépris, se moquer de lui et le renvoyer auprès de Pilate. On trouve ça dans Luc 23. De retour chez Pilate, c'est un procès complètement injuste qui se poursuit. On y apprend même la motivation des principaux sacrificateurs qui l'accusent, la jalousie. C'est cette jalousie d'une minorité bruyante qui va amener la majorité à soutenir cette demande complètement injuste et faire relâcher un meurtrier et mettre à mort Jésus, le seul juste. Est-ce qu'on se rend compte ? Jusqu'ici, tout a été injuste dans le procès jusqu'au coup reçu. Et voilà que la foule demande que celui qui les a nourris, guéris, qui leur a enseigné la vérité, le chemin qui mène à la vie, le pardon et les voies de Dieu, que cette foule donc demande sa mise à mort et que Barabbas, un meurtrier, quelqu'un qui a tué une autre personne, soit libéré à sa place. Et là toujours, pas une personne pour prendre sa défense. Pilate, par crainte, dans un premier temps, va chercher à le libérer. Mais il va ensuite le faire flageller. Et le flagrum utilisé par les Romains pour flageller n'est pas juste un fouet. C'était des lanières avec des morceaux de métal et d'os brisés qui étaient accrochés dessus et qui avaient pour fonction de lacérer la peau avec les coups que la personne recevait. C'était ça que Jésus a reçu comme flagellation. Puis les soldats tressent une couronne d'épines qu'ils placent sur sa tête comme une couronne et le revêtent d'un manteau pourpre pour se moquer de lui et l'humilier encore. Et c'est abandonné, humilié, et le corps complètement meurtri et abîmé par les coups et la flagellation, que, coupable de rien, sinon d'avoir été témoin fidèle de la vérité, d'avoir fait le bien autour de lui et enseigné cette vérité, que Pilate présente à nouveau Jésus à la foule. Auront-ils pitié devant ce spectacle ? Non. Ils vont crier à Pilate de le crucifier. Alors les soldats romains vont encore une fois l'humilier et le frapper, puis l'emmener pour être crucifié. Sur le trajet, en raison des sévices dont il a été victime, il manque tellement de force qu'un passant va devoir porter sa croix. Arrivé au lieu du crâne, lieu où il doit être crucifié, on lui propose un anesthésiant, mais il va refuser et choisir de rester lucide dans sa souffrance. Là, il est crucifié, des clous transperçant ses pieds et ses mains. Il est exposé au regard de tous les passants, nu, nu, crucifié au milieu de deux brigands, humilié et souffrant d'atroces douleurs. Combien on peut s'imaginer que dans une telle situation, on puisse désirer un soulagement, un acte de compassion, une bonne parole peut-être, mais au contraire, les passants s'en prennent encore à lui et se moquent de sa situation. Puis vers midi, viennent les 3 heures dont la perspective l'ont tant fait souffrir d'angoisse dans le jardin. Heures au terme desquelles il va s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui vont se terminer par sa mort. On approfondira encore ces 3 heures qui étaient remplies de cette coupe qui faisait frémir Jésus dans le jardin. Mais avant de continuer, on va se poser une question. Tant de souffrances vécues, d'humiliation et de meurtrissure. Peut-on être conscient de ces choses et venir choisir de les vivre? Exprimé autrement, Jésus a-t-il été victime de tout ceci ou a-t-il choisi d'affronter ces choses en connaissance de cause? Il y a un mot argot en ce moment qui est assez à la mode, c'est le mot « miskine ». Sa définition résume bien la question. Qui est dans une situation de pauvreté, d'échec, inspirant de la pitié? Jésus était-il dans une situation d'échec, inspirant de la pitié? La réponse est non. Mais qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? C'est la Bible, bien sûr. Et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant dans cette prochaine partie. C'est une sélection non exhaustive de passages qui l'affirment. Peut-être que vous en avez d'autres qui vous viendront en tête, bah gardez-les, puis vous pourrez les partager aux autres pendant le moment de communion après. Commençons par des éléments que Jésus a dit lui-même à ce sujet-là. Alors qu'il prie dans le jardin, qu'il est saisi d'angoisse, il l'est parce qu'il sait ce qu'il attend et la coupe qu'il va devoir boire. Et pourtant, il affirme « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Conscient de ce qui lui arrive, il choisit de se soumettre à la volonté de son Père. Lorsque la foule armée vient chercher Jésus dans le jardin, Judas à sa tête, ça n'a pas surpris Jésus, qui l'avait déjà annoncé lors du repas et même à diverses reprises avant ce repas. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Dans le jardin, lorsque Pierre sort son épée et tranche l'oreille d'un serviteur nommé Malchus, que Jésus lui ordonne de ranger son épée, il va affirmer 2 faits utiles dans notre réflexion. Premier, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Matthieu 26. On passe un peu rapidement sur ces 12 légions d'anges. Une légion dans l'armée romaine correspond à un nombre de 5 000 à 6 000 hommes. 12 légions d'anges correspondent donc au minimum à 60 000 anges qui interviendraient à l'instant même si Jésus les invoquait. 60 000 anges. On est bien loin du miskine. Mais il ne le fait pas. Et il va ajouter « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Jean 18, 11. Jésus pourrait donc sans peine éviter cette heure. Mais c'est un choix de sa part d'aller jusqu'au bout, rester fidèle au plan du Père. On a vu aussi qu'à ce moment, tous l'ont abandonné. Mais encore, cet abandon relève d'un acte souverain de la part de Jésus qui ne veut perdre aucun de ceux que le Père lui a donnés. Si donc, c'est moi que vous êtes venu chercher, dit Jésus, laissez partir ceux-ci. Jean 18, 8 et 9. Même le reniement de Pierre était connu et annoncé par Jésus. Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras par trois fois. » Matthieu 26, 33 à 34. On a vu aussi que Jésus est allé jusqu'à mourir sur la croix. C'est là encore une chose qui relève de sa souveraineté sur les événements. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte, ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17 à 18. Personne ne prend rien à Jésus. Même pas sa vie. C'est lui qui va souverainement la donner. Et un dernier indice de la bouche de Jésus, quelques jours plus tôt déjà, Jésus avait affirmé cette volonté qu'on retrouve en Jean 12, 27 à 28, lorsque son âme était troublée à la pensée de cette heure qui s'approche. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. C'est pour cela que je suis venu. Cette heure, comme il l'appelle, lui était connue déjà avant de venir s'incarner sur terre. Elle est même la raison de sa venue. Tout ceci est connu de Jésus avant même son incarnation et c'est même ce qui est la raison ultime de son incarnation. Incompréhensible, n'est-ce pas ? De venir volontairement vivre de telles choses. Regardons encore un ou deux témoignages hors des paroles de Jésus. Le premier dans Philippiens 2, versets 6 à 8, qui nous parle de ce qui a commencé dans le ciel avant son incarnation, dont on se souvient à Noël. Lui, dont la condition était celle de Dieu, donc Jésus, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Sa volonté ne s'est pas arrêtée en cours de route face à la douleur et à la difficulté. C'est bien jusqu'à la mort sur la croix que Jésus s'est humilié et rendu obéissant. Et un dernier passage tiré de l'Ancien Testament pour avoir un équilibre, qui est généralement bien connu, qu'on retrouve un texte à propos du Messie, qu'on retrouve en Ésaïe 53. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré, il s'est donc livré lui-même en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. » Jésus avait donc la connaissance de ce qui arrivait et les moyens d'échapper à cette heure. Il s'est pourtant livré lui-même et laissé briser par la souffrance. Il suit une double volonté, celle du Père et la sienne qui est d'être soumis au Père. Alors j'espère que ces quelques passages ne nous laissent plus aucun doute sur le fait que Jésus n'a absolument pas été surpris, qu'il n'a pas été victime de ce qui lui est arrivé, mais qu'il savait précisément pourquoi il venait, ce qu'il attendait et qu'il avait choisi de venir vivre cela. Mais alors, il me semble que ça nous apporte une autre question. Qui voudrait vivre de telles souffrances ? Quelle motivation pourrait avoir un père pour établir un plan dans lequel son fils bien-aimé est donné et brisé par la souffrance, ce qu'il a de plus cher ? Et quelle pourrait être la motivation d'un fils d'entrer volontairement dans ce plan en se laissant briser par la souffrance ? C'est ce qui nous amène au prochain point, la raison pour laquelle Jésus a accepté volontairement de vivre ces choses. Dans un résumé simple, on pourrait dire 1. Pour nous sauver, c'est la raison. 2. Par amour, c'est la motivation. Un passage bien connu nous expose cette réalité de manière explicite et simple. Vous le voyez des fois à l'arrière des voitures ou collé à quelque part. C'est un verset que beaucoup connaissent par cœur, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu pour ce monde, sa volonté de nous sauver par amour, est à l'origine de la raison du Père offrant son Fils et du Fils donnant sa vie. Peut-être quelqu'un peut se poser la question, bon, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé ? Je ne suis pas en prison, je n'ai pas fait de mal. Ben, ce n'est pas le témoignage de la Bible. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, la relation entre Dieu et les hommes a été coupée de manière irrémédiable pour toute l'humanité. Faisant le mal au quotidien, on enfonce Dieu par nos pensées, convoitise, haine, orgueil, colère injuste. Par les paroles de nos bouches, paroles blessantes, médisantes, mensongères, ou encore par nos mauvaises actions. À cela même, et même avant cela, vient le fait le plus grand de nos péchés, celui de ne plus reconnaître Dieu pour Dieu, de ne pas l'aimer, de se croire autonome, de ne pas le rechercher, de ne pas l'adorer, mais de le remplacer par beaucoup d'autres idoles qui prennent sa place dans nos cœurs, qui occupent nos pensées, nos désirs, notre énergie, notre temps, nos louanges. Chaque domaine de notre vie est désormais touché par le péché qui fait partie de la vie de tous les êtres humains et nous ne pouvons rien y changer, comme le dit la Bible, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Alors on pourrait espérer d'un Dieu bon et plein d'amour qu'il pardonnerait simplement nos péchés. Mais on doit se rendre compte que cela le rendrait profondément injuste. Or Dieu est juste. Il ne peut pas simplement nous pardonner. Le fait que Dieu soit juste est notre plus grand problème à nous pécheurs. Imaginons qu'une personne ait assassiné l'être qui nous est le plus cher. Que le jour où le juge rend son verdict, à la fin du procès, il dise « Voilà, je suis vraiment un juge plein d'amour et de grâce. Et je vais vous le prouver. Je sais que cet homme est coupable. Mais pour vous montrer mon amour et ma grâce, je déclare que cette personne est non coupable. Il est juste aux yeux de la loi. Il peut s'en aller librement. » Mais tout notre être se révolterait contre un tel jugement et s'écrierait que ce juge est profondément injuste. C'est pas de l'amour, c'est de l'injustice. Il y a quelques années, il y a eu un crime odieux qui a été effectué en France et le verdict a été rendu il y a quelques mois. Et c'était intéressant de voir que les personnes qui suivaient ce procès avaient une attente ferme d'une condamnation qui soit juste et à la hauteur du crime. On a tous en nous ce désir de justice, sauf quand ça nous concerne nous-mêmes. Nous avons un profond besoin de justice. Mais on comprend que si Dieu est juste, il ne peut donc pas simplement nous pardonner. Alors que faire ? Un crime demande un jugement et une peine. Un crime contre un Dieu infiniment saint et éternel réclame une peine éternelle, elle aussi. C'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu où un Dieu punisseur, hargneux et vengeur envoie de gentilles personnes. C'est un lieu où un Dieu juste et bon envoie des pécheurs dans une peine qui est juste. Alors est-ce sans espoir ? Non. C'est là qu'arrive la bonne nouvelle. Voilà ce qui est à l'origine de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Du Père donnant son Fils et du Fils donnant sa vie jusqu'à être brisé par la souffrance. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, et on est tous ici inclus dans le quiconque, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Mel Gibson a sorti son film « La Passion du Christ », en tant que non-croyant à l'époque et même au début en tant que nouveau converti, je croyais que Mel Gibson parlait de sa passion à lui pour le Christ ou de la passion générale des êtres humains pour le Christ qu'il avait mis en image. Et c'est que plus tard que j'ai compris qu'il s'agissait de la passion de Christ pour ceux qu'il venait sauver. Cette passion, cet amour de Dieu, le Fils venu pour souffrir ce que nous aurions dû souffrir, vivre l'enfer que nous aurions dû vivre, payer la dette que nous étions incapables de payer. Les théologiens qui ont donné ce nom de la passion à la période qui débute dans le jardin de Gethsémané et qui se termine à la mort et avec l'ensevelissement dans le tombeau, ont tellement bien compris ce qui a poussé Dieu, la personne du Fils, à s'incarner, sa passion pour les pécheurs qu'il est venu sauver. Et ça nous amène à ces trois dernières heures que je vous avais dit qu'on allait laisser un peu plus tard. Ce qu'il y avait dans cette coupe qui a produit de telles angoisses chez Jésus. Pardon. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait de si terrible, qui était source de si grande angoisse et qui ne relève pas des souffrances physiques? De nombreux témoignages dans la suite de l'histoire de l'Église nous montrent des disciples qui ont vécu des souffrances proches de ce que Jésus a vécu en termes physiques et qui pourtant sont allés la louange à la bouche. Penchons-nous de nouveau sur ce passage de l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, en parlant du Messie. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. On voit clairement dans ce passage que ce serviteur souffrant ne souffre pas en raison de ses propres fautes, mais pour les crimes d'autres personnes. Que par cet acte, il s'est offert en sacrifice pour la culpabilité d'autres personnes que lui. Il s'est chargé de la faute des autres. Quelques passages du Nouveau Testament peuvent aussi nous amener à comprendre ça. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus était parfait, il n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. » Il y a un transfert. Il devient péché pour qu'on devienne justice. Ou encore, 1 Pierre 2,24. « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, puis ici on a cet écho, « Mais lui qui a porté nos péchés en son corps. » Ou de la bouche de Jésus, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Vous savez ce que c'est un ransomware? C'est quand des pirates mettent dans une entreprise un programme qui va tout bloquer, puis ils disent « Si vous ne nous payez pas 1 million, on ne vous redonne pas les informations que vous avez. » Ben, c'est ça en fait. Nous, on est dans cette situation, on ne peut rien faire. Il y a quelqu'un qui doit payer nos dettes. Et Jésus s'est offert comme notre rançon pour qu'on puisse être libérés. Justice a été faite. Le juge a trouvé un moyen de concilier sa justice et son amour. Justice a été faite. L'enfer éternel mérité a été porté à la croix par le Fils en faveur de chaque personne qui placeront sa confiance en lui. Avant de mourir, Jésus s'est écrié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était abandonné en raison de nos péchés qui reposaient sur lui et qui étaient insupportables à la vue du Dieu saint et plein d'amour. Jésus a porté sur lui le châtiment éternel, l'enfer éternel de tous ceux qui choisissent de croire en lui et de placer leur confiance en lui pour être sauvés. Dans un commentaire théologien du continent africain auquel j'aime bien des fois me référer, il raconte l'histoire suivante. Lorsque le récit de l'Évangile a été expliqué pour la première fois au sein d'une tribu retirée dans un village qui n'avait encore jamais entendu parler de l'Évangile, au moment où celui qui narrait la bonne nouvelle de l'Évangile arrivait à la crucifixion, le chef du village s'est levé, l'a stoppé et a dit « Arrêtez, descendez-le, c'est ma place !» Il avait tout compris. Ces souffrances, Jésus a volontairement accepté de les vivre à notre place, afin que nous n'ayons plus à les vivre nous-mêmes. La place qu'a pris Jésus aurait dû être la nôtre. Une question peut venir. Comment un homme, en 3 heures sur la croix, pourrait-il payer l'enfer éternel non seulement d'une personne, mais encore d'une multitude qui placeront leur confiance en lui ? Eh bien, c'est là certainement la chose la plus extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû venir lui-même sur terre pour accomplir le salut. Seul un Dieu éternel, tout-puissant et infini, pouvait en 3 heures de temps porter la punition éternelle de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Alors que les gens qui assistaient à la crucifixion, pensaient que c'était les clous qui retenaient Jésus à la croix, on a compris ce matin que ce n'était pas le cas. C'est son obéissance indéfectible au Père et son amour pour ceux qu'il venait sauver qui sont les seuls éléments qui l'ont retenu sur cette croix, alors même que 60 000 anges étaient à sa disposition pour venir le libérer s'il le demandait. Ça nous amène au dernier point. Rappelons-nous maintenant que notre point de départ était de réfléchir à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ces réalités nous apprennent de la gloire de Dieu ? Quel Dieu pourrait vouloir d'une gloire pareille, sinon le seul vrai Dieu ? Jamais les hommes auraient inventé un tel Dieu. Il n'y a rien qu'à regarder les mythologies grecques pour voir de quelle nature sont les dieux que les hommes ont inventés. Voilà la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ, le seul juste mourant pour les injustes. Une gloire qui se donne par amour, qui accepte de souffrir en prenant sur lui le châtiment de ceux qui le haïssent. Ceci uniquement motivé par la grâce et la manifestation de cette gloire qui est la sienne. Désormais, à quoi est-ce qu'on pensera quand on réfléchira à la gloire de Dieu ? J'espère qu'on n'en aura plus une idée lointaine, peut-être même égoïste. La gloire de Dieu se donne pas juste en théorie, mais en pratique. Elle est amour, bonté, miséricorde. Oui, sa puissance, sa création, sa justice, tant d'autres choses font aussi partie de ce qui compose sa gloire. Mais voilà ce que Dieu nous révèle en Jésus à l'heure de la croix. Une gloire dépouillée de prétentions personnelles, tournée vers le bien des autres, poussé par un amour infini, débordant. Lorsque Dieu a révélé sa gloire à Moïse, rappelons-nous, il disait « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » Ce n'était pas que des mots, ça a été suivi par des actes. Alors si tu es non-chrétien, c'est-à-dire si tu ne crois pas ou si tu n'as pas placé ta confiance en Jésus, que vas-tu faire de ce message, de cette invitation à courir à Jésus pour recevoir le salut gratuitement ? C'est vrai, il y a un côté humiliant. Ça implique de renoncer à l'idée qu'on puisse se sauver soi-même. Ça nécessite de reconnaître notre faillite personnelle. Mais combien c'est bon ! Parce que la récompense est de vivre le reste de nos jours et l'éternité à venir avec celui qui n'a pas reculé devant tant de souffrances pour nous sauver et qui sait mieux que nous ce qui peut réellement nous rendre heureux. Et si tu es chrétien, alors désormais, que signifie pour toi de vivre pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui sera dans ta vie de nature à refléter sa gloire? Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, y compris ses ennemis. Voilà ce qui représente le plus fidèlement en résumé la gloire de Dieu. Bénir, ne pas maudire. Pardonner, ne pas garder rancune. Ne pas faire le mal, mais faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Dire du bien des autres, ne pas médire. Servir les autres, visiter les personnes souffrantes, prendre soin des plus faibles, nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, être accueillant, hospitalier, aussi envers l'étranger. Visiter les malades et ceux qui sont en prison, exhorter, instruire, consoler, etc. Autant de choses commandées par notre Seigneur et qui reflètent sa gloire. Et quel exemple il nous laisse, lui qui nous dépasse. Alors qu'il était crucifié, envahi par une douleur inimaginable, il s'est pourtant encore préoccupé de ceux qui le clouaient sur cette croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est de lui que nous sommes les disciples. C'est sa gloire qu'on est appelé à refléter. Il est important pour nous de méditer ces réalités. Parce que c'est dans ce que Dieu a fait pour nous, dans l'amour qu'il nous a manifesté en premier, que se trouve notre motivation pour faire ces choses et vivre à la gloire de Dieu. C'est dans la personne de Dieu et son œuvre pour nous que se trouve la vraie motivation durable pour vivre notre vie pour lui. Ce Dieu qui nous aime, qui s'est fait notre Père, notre frère, et qui nous donne son esprit pour nous pousser, nous soutenir dans cette vie avec lui. Un Dieu qui nous aime tellement que son plus grand désir à notre sujet est que nous soyons avec lui pour l'éternité. Un Dieu qui prend plaisir à nous entendre lui parler, qui a des élans de joie lorsque nous l'adorons. Ce Dieu qui comprend et compatit à nos douleurs. Un Dieu qui a souffert pour nous et qui continue à souffrir avec nous dans nos difficultés, tellement sa compassion et son empathie sont grandes. Un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. Et je vous rassure, on est tout proche de la fin. Mais une dernière application. Alors que Corrie ten Boom était dans un camp de concentration pour avoir caché des Juifs avec sa famille, elle s'est retrouvée dans une situation humiliante. Elle, sa sœur qui était présente avec elle, et toutes les autres femmes de ce camp, se sont retrouvés à devoir se mettre nus devant les Allemands et à faire la queue pendant très longtemps dans cette situation. Humiliée, soudain une vérité lui surgit dans la tête. Mais Jésus aussi était nu à la croix. Son Sauveur, lui aussi, avait été nu sur la croix, humilié aux yeux de tous. Elle et sa sœur trouvèrent une puissante consolation dans le fait de savoir que l'être le plus cher pour elle, avait connu cela et qu'il les comprenait. Il y a également dans les souffrances de Christ une consolation. Si tu souffres d'angoisse, pense que Jésus a souffert d'angoisse dans le jardin jusqu'à l'agonie. Il a vécu et il le comprend. Si tu souffres de douleurs physiques, tu peux trouver aussi en Christ celui qui te comprend. Si en raison de ta foi ou pour une toute autre raison injuste, tu vis l'humiliation, que ce soit à l'école, au travail, parmi tes amis, au sport ou ailleurs, pense que Jésus a connu un acharnement si injuste et violent jusqu'à la mort. Si tu as été abandonné par un être qui t'était cher, Jésus aussi l'a vécu et il te comprend. Si on s'en est pris à toi injustement pour quelque chose dont tu n'es pas coupable, pense à Jésus. Il sait ce que tu vis. Il l'a vécu avant. Ton Sauveur et ton Seigneur te comprend. Et rappelle-toi que par toutes ces choses, non seulement il te comprend, mais en plus par ces souffrances qu'il a vécues, tu n'auras jamais à vivre l'angoisse devant le châtiment de l'enfer, ni les douleurs de ce châtiment. Que de Dieu tu ne seras jamais désormais abandonné, que tu ne seras pas honteux lorsque tu te présenteras devant le tribunal de Christ, car lui, jamais, ne t'abandonnera et il est ta justice. Très brève conclusion. Si quelqu'un doute encore, j'aimerais l'encourager à réfléchir à ceci. Toutes les souffrances au sujet desquelles on a médité, aujourd'hui, Jésus l'a fait alors que nous étions encore ses ennemis. Alors maintenant que nous sommes réconciliés par son œuvre, quel regard Dieu portera sur nous? Et je conclue avec Romains 5, 8 à 11. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.